Le Holodomor, c'est la famine organisée par Staline dans les années 30 pour punir l'Ukraine et pour collectiviser les biens de production agricole. Cet Holodomor est à présent reconnu chez nous, comme dans d'autres capitales européennes, comme génocide, mais notre mémoire a été fissurée pendant trop longtemps, nous dit Georges Dalman, qui depuis 10 ans se bat pour cette reconnaissance. C'est également le cas de Catherine Colléda, qui a traduit les mémoires de son père sous le titre « Quand Staline nous affamait ».
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Holodomor, qui a été reconnu comme un génocide contre notre peuple par le régime totalitaire stalinien, a fait des victimes des millions d'Ukrainiens. Nous ne pourrons jamais pardonner cela.
L'Holodomor, ou meurtre de masse par la famine, aurait tué entre 3 et 4 millions de personnes en Ukraine entre 1932 et 1933. Staline avait fait réquisitionner toute la production agricole du pays, laissant les paysans, accusés d'être hostiles au régime, littéralement mourir de faim. Une quinzaine de pays ont d'ores et déjà reconnu l'Holodomor comme un véritable génocide. Une démarche importante aujourd'hui que l'Ukraine affronte les mêmes démons. Volodymyr Telichyak est le vice-président de l'Institut pour la mémoire nationale ukrainien.
À l'époque, le monde n'avait pas condamné les crimes du totalitarisme stalinien. Cela permet aujourd'hui au régime de Poutine de réhabiliter Staline et de lui emboîter le pas dans ses entreprises criminelles.
Dans les années 30, Staline avait commencé par éradiquer toutes les élites ukrainiennes, politiques, religieuses, culturelles et économiques. Les méthodes changent, mais l'objectif demeure.
C'est le même crime qu'il y a 90 ans. Staline, dans les années 1932-1933, et Poutine, aujourd'hui, ont exactement le même objectif, annihiler le peuple ukrainien, la nation ukrainienne en tant que telle.
Ce samedi, les Ukrainiens allumeront une bougie à leur fenêtre pour commémorer les victimes de l'Holodomor. Chaque famille en compte.
Il faut savoir qu'au niveau du Parlement, quand on parle d'un génocide, ça voudrait dire que de manière délibérée, les Russes auraient, dans les années 30, tué des Ukrainiens en masse. Même les experts scientifiques, les historiens, même demandés par les partis de la Vivaldi, ont clairement dit que oui, c'est quelque chose de très grave qui s'est passé, mais ce n'est pas un génocide.
Bonsoir donc à tous les deux. Catherine Colléda, recueillir le témoignage, en l'occurrence celui de votre père, sur cette survivance, vous le titrez d'ailleurs « Récit d'un survivant ukrainien », c'est aussi recueillir le témoignage d'un survivant enterré dans le silence, parce qu'on ne peut pas dire que l'Holodomor ait bénéficié d'une grande reconnaissance internationale, et a fortiori encore moins russe.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui n'a pas été reconnu par tous les pays comme génocide. Les choses bougent depuis l'année dernière. Malheureusement, il a fallu attendre la guerre pour que les choses bougent par rapport à la reconnaissance de l'Holodomor. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il a fallu taire pendant des années. Jusqu'en 1987, il était interdit en URSS d'utiliser le mot famine pour parler de cette famine de 1932-1933.
Alors, il s'agit en fait d'un plan machiavélique de la part de Staline qui consiste à vouloir de force mettre en œuvre ce qu'on appelle la découlakisation, la mise à mal, pour ne pas dire à mort, des riches paysans propriétaires ou réputés tels, les koulaks, et d'une nouvelle planification, mais qui consiste surtout en un rapt violent de toutes les récoltes possibles en Ukraine, y compris pour mettre les Ukrainiens au pas.
Oui, oui, tout à fait. Tout a commencé par la découlakisation et par rapport à ma famille, justement, les membres de ma famille étaient considérés comme des koulaks. En fait, c'était des prétendus paysans riches, mais il suffisait d'avoir aussi un petit lopin de terre pour être considéré comme koulak. Et ils ont été découlakisés, c'est-à-dire qu'on leur a tout pris. Les grands-parents ont déjà été envoyés dans les montagnes pour être ensuite envoyés en Sibérie, au goulag. Et on essayait de tout prendre à ces personnes, de tout collectiviser en fait. Et ma famille n'a pas accepté ce sort, car elle vivait de ses terres et elle n'a pas voulu accepter qu'on prenne ses terres.
Alors, littéralement, le mot ukrainien Holodomor, que signifie-t-il ?
C'est l'extermination par la faim. C'est-à-dire que Staline a vraiment orchestré cette famine pour éviter toute rébellion de la part des Ukrainiens et aussi, bien sûr, des Koulaks. Parce qu'évidemment, quand on n'a rien à manger, quand on n'a plus de force pour se rebeller, on finit peut-être par accepter son sort. Mais heureusement, certaines personnes ont eu le courage ou la force de partir et de quitter l'Ukraine, ce qui n'était pas évident puisque les frontières ont été justement fermées. Ma famille est partie deux fois, s'est échappée deux fois vers la Biélorussie. Et on l'a retrouvé en Biélorussie, on l'a renvoyé en Ukraine. Et il était clair pour mon père que l'Ukraine était devenue une prison et qu'on y renvoyait les Ukrainiens pour y mourir de faim.
Soyons clairs, l'Holodomor, c'est des millions de morts.
Oui. Alors les chiffres vont de 4 millions à 7 millions de morts, suivant les sources. Et effectivement, c'est énorme et ça paraît incroyable.
En 2008, le Parlement européen reconnaît l'Holodomor comme crime contre l'humanité par une résolution du 23 octobre 2008, vous le citez. Est-ce que c'est le début pour vous de l'espoir de reconnaissance ?
Oui, c'était déjà le début. Et comme je l'ai dit au début de l'interview, malheureusement, il a fallu attendre cette guerre pour que les choses bougent. Et depuis ce temps-là, le Parlement européen a reconnu l'Holodomor comme génocide en décembre 2022, donc en fin d'année dernière. L'Allemagne a aussi reconnu maintenant l'Holodomor comme un génocide. Donc la Belgique et puis l'Assemblée nationale en France et le Sénat le 17 mai. Et le Sénat a appelé le gouvernement à reconnaître comme un génocide l'Holodomor.
Georges d'Allemagne, bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais en introduction, cela fait pratiquement 10 ans que vous avez pris ce dossier à bras-le-corps, mais à l'époque, on vous a traité de fou.
Oui, on ne voulait pas en entendre parler, on détournait le regard et j'étais vraiment tout à fait surpris de voir comment un crime aussi massif, probablement un des plus grands crimes de l'histoire du XXe siècle en Europe, était à ce point méconnu, à ce point nié. En fait, quand on demandait autour de soi « est-ce que vous connaissez le Holodomor ?», personne ne connaissait le Holodomor. Et donc, d'une certaine manière, Staline avait réussi effectivement à commettre les crimes les plus terrifiants, tout en faisant en sorte que finalement l'histoire se refermait sur ces crimes et qu'un déni, qu'un silence total. C'était même pas un déni, c'était un silence total qui s'installait sur ces crimes. Et donc c'était effrayant pour nous-mêmes, pour notre mémoire collective, pour le peuple ukrainien bien sûr, pour les survivants bien sûr, mais c'était extrêmement dangereux aussi et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on mette ce crime à l'ordre du jour, parce que le fait de n'avoir jamais qualifié correctement ce crime, de ne l'avoir jamais essayé de poursuivre ses auteurs, de le laisser totalement impuni, eh bien était d'une certaine manière une invitation à commettre à nouveau ce type de crime. Et c'est ce qu'on voit sans doute en Ukraine aujourd'hui, c'est qu'effectivement finalement une certaine forme de brutalité, une certaine forme de crime, d'usage de la force de manière totalement indiscriminée, est devenue d'une certaine manière la norme, puisque jamais on a qualifié ces actes dans le passé comme étant des actes criminels sanctionnables.
Oui, je vais citer d'ailleurs un extrait de cette résolution du Parlement européen de 2008 que Catherine Colléda a remis évidemment également dans ce livre et qu'elle a traduit, les mémoires de son père. Je cite, on dit que la propagande et la glorification du régime totalitaire soviétique et la relance du culte de Staline en Russie ont abouti à ce que la Russie soit aujourd'hui un État qui promeut le terrorisme et utilise des moyens terroristes et est devenu un État qui reproduit aujourd'hui des crimes horribles perpétrés jadis contre le peuple ukrainien, tels que Holodomor, la tentative russe de faire mourir le peuple ukrainien de froid par la destruction ciblée des infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes, alors que l'hiver est là. Et on voit encore d'ailleurs, il y a quelques heures, le bombardement de la centrale de Zaporizhzhia pour la xième fois qu'elle déconnecte, etc. C'est cet égoïsme-là, c'est parce que nous sommes maintenant concernés par la guerre qu'on veut bien atterrir à un résultat, parce que vous avez fini par aboutir, là, il y a peu.
Oui, effectivement, tout à coup, on se rend compte que notre propre sécurité est concernée, très clairement, et que donc, effectivement, il faut qualifier ce qui se passe. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, puisque la justice internationale est sollicitée, et c'est une excellente chose. Et puis, on a enfin ce regard sur le passé, on a enfin ce regard sur ce qu'a commis Staline. Mais ça n'est pas simple, parce qu'encore aujourd'hui, certains estiment qu'il y a une instrumentalisation de ce terme, alors qu'il y a simplement enfin une qualification correcte de ce terme. Et celui qui le premier à utiliser ce mot génocide à propos du Holodomor, c'est Raphaël Lemkin. Et Raphaël Lemkin, ce n'est pas n'importe qui. C'est un juriste qui était procureur à Varsovie en 1933, qui a aidé la Société des Nations justement à essayer de débroussailler le droit international pour qualifier justement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide.
Et c'est lui à Nuremberg.
Et c'est lui qui est venu à Nuremberg et qui a qualifié pour la première fois la Shoah comme crime de génocide. Et donc oui, il est effectivement la personne la mieux qualifiée pour décrire ce qui s'est passé et pourquoi ça doit être qualifié de crime de génocide. Mais encore récemment dans le Parlement, certains, comme par exemple au PTB, me disaient que c'était de la propagande, que c'était des fake news et que ce n'était absolument pas exact. Et donc ça n'est pas fini et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et merci d'en parler, parce que le silence se poursuit en fait sur ce grand crime et qu'en réalité, malgré la reconnaissance de ces différents parlements, en réalité, cette histoire-là reste très méconnue dans la population européenne, dans la population belge. Et c'est important qu'elle soit connue pour faire mémoire, pour faire justice et pour essayer de se prémunir de tels crimes à l'avenir.
Oui, Catherine Colléda, en fait, votre livre, vous le dites, c'est la somme des témoignages d'heures et d'heures de dictaphone avec votre père Ivan qui vous raconte cela. Il est alors âgé de 70 ans, c'est au milieu des années 90 que vous récoltez toute cette information. Vous le publiez en traduction donc aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que là aussi, l'effet d'actualité permet qu'un éditeur s'en empare. Dans les années 90, vous auriez peut-être eu plus de peine à faire publier le livre ?
Peut-être certainement d'ailleurs, parce que, comme le dit Monsieur d'Allemagne, on n'a jamais parlé de ce génocide, de cet holodomor, c'était quelque chose qui n'était pas connu. Et il y avait aussi cette peur de mon père. Il m'a bien sûr dit toutes ces choses, mais il avait vraiment très peur qu'on le poursuive. Il a toujours été...
Tant d'années après, il était encore persuadé que...
Oui, tout à fait. Il a jamais voulu retourner dans son pays de peur de représailles. Et il a bien sûr regretté, parce qu'il aurait aimé retourner dans son pays, mais il a toujours eu peur, même après avoir obtenu la nationalité française. Et quand j'ai commencé à vouloir l'enregistrer, donc évidemment, il m'a raconté beaucoup d'histoires lorsque j'étais plus jeune. Mais quand c'est devenu officiel, que j'ai voulu l'enregistrer, ça lui a fait un peu peur. Et il a mis quand même, c'est ce que j'explique au début du livre, il a mis quand même du temps à démarrer, entre guillemets. Et après, il s'est laissé aller, mais il regardait sans cesse le dictaphone de peur que cette histoire soit vraiment connue. Mais c'était son souhait en même temps qu'elle soit connue. Donc il y a cette peur chez de nombreux Ukrainiens, ceux qui sont peut-être encore en vie, mais même les générations suivantes. J'étais allée à la foire du livre de Francfort en 2016. Et j'ai parlé avec une dame qui était à une maison d'édition ukrainienne. Je lui ai parlé de l'Holodomor et sa réaction était vraiment incroyable. Elle s'est tue, elle n'a pas pu parler et elle m'a simplement dit, en mettant la main sur son ventre, « ma grand-mère ». Et ensuite, on est passé à d'autres sujets. Mais c'est incroyable ce traumatisme qui est encore chez les gens et chez la génération suivante aussi, les générations d'après.
Georges d'Allemagne, vous vous êtes rendu régulièrement, hein, on peut vous suivre d'ailleurs pour celles et ceux qui le souhaitent sur Facebook, vous vous êtes rendu plusieurs fois cet an dernier en Ukraine, vous avez été sur place voir et bien sûr l'état de la guerre et en rendre compte plusieurs fois. Est-ce que vous avez l'occasion d'aborder avec ces gens aussi ce souvenir de l'Holodomor, ou est-ce que pour l'instant, évidemment, l'actualité apocalyptique qu'ils vivent efface même jusqu'à la préoccupation de l'Holodomor ?
Non, je dois dire que ceux avec qui j'ai pu en parler, pour eux, ça reste effectivement un énorme traumatisme et c'est une grande reconnaissance de pouvoir en parler avec un étranger. J'ai souvent eu cette expérience, j'ai eu ça au Cambodge, j'ai eu ça avec les Yézidis, j'ai eu ça au Rwanda. C'est très compliqué d'en parler entre eux. Il y a une forme de silence, d'omerta, de terreur, de peur. Mais dès qu'il y a un étranger qui vient leur en parler, il y a une espèce de soulagement, de reconnaissance, de remerciement très profond finalement. Et je me souviens ici, quand on a fait adopter la résolution par la Chambre, j'avais demandé à l'ambassadrice d'Ukraine d'être là à ce moment-là parce que c'était un moment important. Elle était dans la tribune et elle est sortie de la tribune et elle m'a dit « Monsieur d'Allemagne, c'est vrai, ça a été adopté, c'est la fin, c'est fait là maintenant ?» J'ai dit « Mais bien sûr, Madame l'ambassadrice, bien sûr. » Elle n'en revenait pas. Elle était en larmes. Elle était profondément émue par ce qui s'était passé. C'était probablement l'expérience la plus extraordinaire qui lui était arrivée depuis des années, qu'il y ait un pays comme le nôtre qui vienne reconnaître et qualifier justement ce crime terrible qu'ils avaient dans leur mémoire et qu'ils, encore aujourd'hui, qui a bien du mal effectivement à s'exprimer parce que le crime est atroce et massif.
Catherine Colléda, est-ce que cette reconnaissance arrive trop tard ?
Il n'est jamais trop tard, je pense. Mais bien évidemment, il aurait été judicieux qu'elle arrive avant la guerre. Est-ce qu'une guerre aurait pu éviter ? Je ne sais pas. Parce que, évidemment, ce genre de reconnaissance permet d'éviter de nouveaux drames. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Il faudrait que l'Holodomor soit reconnu de manière universelle.
La violence qui s'est pratiquée sous l'Holodomor, et pour les raisons que l'on évoquait au départ, aussi cette campagne à propos de l'agriculture planifiée et forcée depuis Moscou par les équipes de Staline, est une chose, mais la violence stalinienne s'exprimait déjà à bien des égards. Vous relatez, ou plutôt votre père relate, d'autres événements, des datchas qui brûlent en Sibérie avec des gens à l'intérieur. Enfin bon, bref, ce n'est pas le seul crime de Staline.
Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi cette poursuite. Ma famille a été la cible des hommes de Staline pendant des années. Donc il y a eu déjà cet Holodomor. Mais ensuite, effectivement, ils étaient poursuivis, ils ont dû changer d'identité puisqu'ils étaient la cible de Staline en tant qu'Ukrainiens. C'est ce que mon père m'a expliqué. Et ils ont dû quitter leur pays très tôt pour y revenir quelques temps après et notamment avant la fin de la guerre, où ils ont pu un peu revivre sous l'occupation allemande ce qu'ils avaient vécu avant le stalinisme. Et ils ont dû ensuite quitter leur pays puisqu'ils avaient le choix entre rester en Union soviétique et être victime de représailles ou partir avec les Allemands pour sauver leur peau.
Georges d'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, il y a à la fois d'abord quelques années qui passent où Staline fait figure de héros, ce qui par ailleurs est assez incontestable dans la mesure où le sacrifice russe, soviétique en tout cas, est incontestable dans la victoire sur le nazisme. Mais il fait figure héroïque et donc on ne conteste pas. Les partis communistes de ce côté-ci ne veulent pas contester le stalinisme pendant de très nombreuses décennies. Certains le poursuivent encore aujourd'hui. Et puis l'Ukraine avait basculé dans le champ soviétique et n'avait peut-être pas fait les bons choix judicieux aux yeux de certains pendant la guerre pour certains d'entre eux. Donc c'était une population à laquelle on n'avait aucune vocation à s'intéresser en fait.
Non, mais ça dépasse bien plus la question ukrainienne. Hein. C'est la question effectivement de tout l'espace post-soviétique et de la Russie elle-même. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait jamais eu de jugement de ces crimes, hein, on estime aujourd'hui que les crimes de Staline ont pu tuer environ 15 millions de personnes, beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens, on en parle, évidemment, que cela n'a pas permis finalement à la Russie de créer les bases d'une société démocratique où les questions de liberté, où les questions de justice sont profondément ancrées. Il n'y a pas eu de Nuremberg, en fait, après les crimes de Staline, et c'est une faute grave et de la Russie, et de nous tous, collectivement, de ne pas avoir voulu poursuivre ces crimes, parce que effectivement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, en tout cas c'est ce que dit l'Institut Raphaël Lemkin, qui étudie aujourd'hui le Holodomor et les crimes actuellement qui se perpètrent en Ukraine, c'est qu'il s'il y avait eu cette justice internationale, si dans le plus profond finalement de l'âme russe, on avait effectivement à l'occasion de l'expérience stalinienne, on avait su ce qui était totalement inacceptable, ce qui était totalement insupportable pour une société humaine et ce qui devait être condamné et pointé du doigt et où la justice devait être rendue, peut-être qu'effectivement on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je pense en tout cas que c'est une faute qu'on ne doit plus commettre. Et je pense que si l'on veut restabiliser l'espace européen durablement après l'Ukraine, il faudra effectivement que justice soit rendue par rapport aux crimes commis en Ukraine.
Oui, Catherine Colléda, quel était le sentiment de votre père quand, bien ma foi, l'enregistrement était terminé?
Quand l'enregistrement était terminé, déjà il était extrêmement soulagé de m'avoir tout dit. Il m'avait donné aussi le fil rouge de l'histoire, puisque je connaissais énormément d'anecdotes, énormément d'histoires, mais je n'avais pas compris en fait le fond de l'histoire et le pourquoi du comment. Et il était soulagé et il savait que je voulais donc publier un livre. C'était un projet avec lui et avec mon frère qui faisait des études d'histoire. Et malheureusement, il n'a pas vu le livre. Le livre n'a pas été édité avant qu'il nous quitte. Mais c'était son souhait aussi que je fasse connaître cette histoire.
Catherine Colléda, est-ce que cette histoire terrible, hein, celles et ceux qui vont lire votre livre vont s'en rendre compte au quotidien par le témoignage de votre papa, mais est-ce que cette histoire, cet Holodomor, a déjà, donc dès l'époque, provoqué en Ukraine ou auprès des Ukrainiennes et Ukrainiens en diaspora une haine du russe?
C'est une question difficile. Quand je pense à mon père, ce n'était pas le russe qu'il n'aimait pas, c'était les dirigeants russes, c'était Staline, c'était les communistes. Pour lui, que ce soit des Russes communistes, des Ukrainiens communistes, c'était les communistes qui, entre guillemets, lui pourrissaient la vie. Et c'est surtout envers Staline qu'il en voulait, puisqu'on se rend compte, et c'est surtout à Staline qu'il en voulait, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire qu'il n'avait rien directement contre les Russes, puisqu'il avait une petite amie qui était russe, ensuite sa sœur s'est mariée par la suite avec un Russe. Mais c'était plutôt donc, cette haine envers Staline et les communistes.
Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que descendante d'Ukrainiens, vous êtes en haine contre les Russes pour ce qui se passe?
Je suis bien sûr en haine par rapport à ce qu'il se passe. Lorsque j'ai appris que l'Ukraine avait été attaquée par la Russie, j'ai été extrêmement choquée et bien sûr, j'ai repensé à toute l'histoire de mon père et je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas et ça, c'était très blessant et très choquant.
Georges d'Allemagne, un fin mot de la fin, si j'ose dire, pour aujourd'hui, mais lorsque l'on écrira, on l'écrira un jour, l'histoire de ce qui est en cours et l'histoire de notre mémoire longue à atterrir pour ce qui était déjà en cours, que dira-t-on de l'Europe?
Je pense qu'elle n'était pas au rendez-vous ni de la justice à l'époque des crimes de Staline, ni aujourd'hui de... Elle ne pouvait pas imaginer que ce type de crime pouvait se répéter. Et donc, elle n'a pas voulu voir ce qui était en train de se tramer à Moscou, au Kremlin. Moi, je voyais effectivement tous les signaux étaient là pour l'invasion de l'Ukraine. Ça paraissait l'évidence même quand on va jusqu'à mettre des poches de sang dans les hôpitaux aux frontières de l'Ukraine. Et on n'a pas voulu, encore une fois, voir... Parce que l'Europe était cet espace préservé, paisible, prospère, à l'abri des turbulences du monde. Et je crois que ça doit nous enseigner le fait que nous devons pouvoir voir dans les yeux ce type de crime, ce type de capacité à répéter les crimes, et que nous devons effectivement ne pas laisser commettre ce type de crime. C'est insensé, c'est insupportable qu'en ayant notre capacité, en termes également de défense, de sécurité, nous n'ayons pas été capables de protéger l'Ukraine contre ce type de crime, à la fois, encore une fois, par la justice et aussi par la dissuasion. Je terminerai sur la question effectivement, des relations entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que les Ukrainiens n'en voulaient absolument pas aux Russes. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous ont dit quand j'étais les voir au premier jour de la guerre. Ils nous ont dit, vous savez, nous sommes en colère parce que c'était nos frères. C'est ça qu'ils m'ont dit, les Ukrainiens. Et c'était cette colère terrible en se disant, finalement, nous avons traversé ensemble les pires horreurs et ils se retournent encore une fois contre nous, leurs dirigeants se retournent encore une fois contre nous et essayent de nous anéantir encore une fois. C'est insupportable.
Merci à vous deux. Je rappelle donc que le Parlement belge a adopté en résolution la notion de génocide pour qualifier dorénavant en Belgique, en tout cas, l'Holodomor, que le Parlement européen l'avait fait à son tour et que l'on attend d'autres capitales encore les mêmes gestes. Et puis ce livre que vous avez initié et traduit, Catherine Colléda, « Quand Staline nous affamait », récit d'un survivant ukrainien, les mémoires de votre père, c'est aux éditions Rutsen dans les collections Histoire.